الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nous sommes arrivés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala au 16e grand péché que l'imam al-Dhahabi rahimahullah a cité dans son livre Al-Kaba'ir, les grands péchés, qui est shahadatu az-zur, le faux témoignage. Shahadat al-Zur, ça rentre dans le mensonge en général, mais il est pire que le simple mensonge. Car le mensonge, c'est dire quelque chose qui est contraire à la vérité. Al-Kadhib. Al-Kadhib, c'est dire quelque chose qui est contraire à la vérité. Vient ensuite Qawl al-Zur. Qawl al-Zur, c'est la parole mensongère pour embellir le faux. C'est-à-dire, c'est le mensonge qui est sous l'image de la vérité. Qawl az-zur. Qui fait partie du mensonge, mais c'est quelque chose de plus spécifique dans le mensonge. Et shahadat az-zur, le faux témoignage, c'est encore un autre stade, un autre degré, qui est le fait de rapporter volontairement une information dont on n'a aucune connaissance ou bien dont on sait qu'elle est fausse, qui est contraire à la réalité. Devant un juge ou un gouvernant ou toute autorité dont la décision repose sur cette parole, dans le but d'établir le faux, ou d'annuler un droit. Donc, shahadat az-zur, le faux témoignage, est plus grave que le simple mensonge où la personne nuit à sa personne, peut-être à la personne à qui il a menti ou non. Mais là, il y a un témoignage et l'auteur de ce faux témoignage, il se rend coupable d'un grand péché dont le tort est étendu au bien, à l'honneur, aux vies et au système judiciaire. Donc, il fait partie des grands péchés. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité dans les 7 péchés pernicieux, les 7 plus grands péchés, quand il a cité les péchés et il était accoudé sur un coussin, puis il s'est relevé, il a dit wa qawl az-zur wa shahadat az-zur wa qawl az-zur wa shahadat az-zur wa qawl az-zur wa shahadat az-zur, jusqu'à que les sahaba ils disent laytahu sakat. Donc, pour montrer la gravité de ce péché qui est le faux témoignage, et il fait partie des parmi les plus grands péchés selon l'unanimité des musulmans. Et celui qui se rend coupable de ce péché est considéré comme un dévoyé, un fasiq, dont la probité a été annulée et dont le témoignage n'est plus accepté. Après, les savants ont divergé des écoles juridiques. Est-ce que son témoignage n'est plus accepté définitivement, ou bien s'il se repent et que l'on peut constater de son état que maintenant il ne ment plus, il ne fait pas de faux témoignages et qu'il est véridique, on peut accepter son témoignage après? Pour montrer la gravité, si la divergence elle en est arrivée là. Et si une injustice résulte de son faux témoignage, il sera partenaire dans le péché de cette injustice qui a résulté à cause de son faux témoignage. Il dit pas, oui, mais c'est pas moi qui ai jugé, je suis pas responsable. Non. Il est responsable. De même qu'un juge, s'il juge en se basant sur le faux témoignage, tout en sachant que c'est un faux témoignage, il est aussi responsable de cette injustice. D'ailleurs, son jugement ne peut pas rendre licite l'illicite, ou illicite le licite. Il ne peut pas donner le droit à quelqu'un une chose dont il n'a pas le droit auprès d'Allah.
ni empêcher quelqu'un d'un droit auquel il a le droit auprès d'Allah. Même s'il fait l'effort de déduction et il se trompe par erreur, non pas par injustice, ça ne rend pas halal le haram ou haram le halal. Ça ne fait pas annuler les droits. Si par exemple ceux qui sont concernés par ce jugement le savent, la personne ne dit pas ah, le juge il a jugé. Si lui il sait qu'il est redevable de cette chose à son prochain, devant Allah il est redevable, même si le juge a jugé du contraire. Même si le juge a jugé du contraire, si lui il a réussi à influencer le juge par des faux témoignages ou par ses belles paroles, ça ne change rien à la réalité des choses. Rien. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a dit. Je juge entre vous selon ce que vous m'apportez. Il suffit que l'un de vous soit plus éloquent que l'autre dans sa parole, et je juge pour lui alors qu'il a tort. Si tel est le cas, je lui ai jugé une partie de l'enfer. S'il l'apprend, il a pris une partie de l'enfer. Donc il montre qu'il n'a pas le droit de l'apprendre. Même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'il l'a jugé entre eux. Si c'est des choses matérielles, sur lesquelles il n'y a pas une révélation, bien sûr. Donc pour montrer que le juge, de toute façon, en finalité, il ne peut juger que selon les éléments qu'on lui expose. Et même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je ne suis qu'un homme, je juge que selon ce que vous m'exposez ». Donc si les gens trompent ou mentent ou cachent des éléments, à la fin, il ne pourra juger que sur ce qui lui est exposé, sur la bonne foi apparente des gens. De même, aujourd'hui, les juges, dans les conflits, dans les divorces, dans les problèmes de tutorat, dans la garde, dans les droits financiers, dans les conflits commerciaux, dans les conflits entre les frères ou entre des personnes, des associés, en finalité, il ne juge que sur ce qu'il voit et qu'il connaît. Et si, bien sûr, si on est dans un pays où la juridiction nous oblige de suivre, alors on n'a pas le choix, on va suivre la juridiction. Mais par contre, la personne qui a eu gain de cause, c'est ça en fait, c'est cette personne que ça concerne, cette règle. Pas celui qui a perdu. Celui qui a perdu ne peut rien faire à part subir. Il patiente et Inch'Allah sa récompense sera devant Allah, s'il a été opprimé. Il ne peut rien faire. Ou il redemande un autre jugement, ou un appel, ou quoi que ce soit. Il essaie d'avoir recours à ce à quoi il peut avoir recours pour avoir son droit. Si en finalité, le jugement ne lui a pas donné droit alors qu'il a le droit auprès d'Allah, il n'a rien à faire à part patienter et il aura sa récompense auprès d'Allah. Nous, on ne parle pas de lui. On parle de la personne qui a eu gain de cause alors qu'il a tort. On parle de cette personne. Il sait qu'il a tort. Il sait qu'il est redevable d'un droit. Mais il se cache derrière « Ah, le juge a jugé ». Celui-là, il ne se sauve pas devant Allah. Devant Allah, il va rendre des comptes. Voilà, c'est cette personne dont on parle. Encore pire, ceux qui règlent leurs conflits par les hommes qui ne jugent pas selon la loi d'Allah. Encore pire. Alors qu'Allah a mis en garde de ne pas chercher à se faire juger par autre que les lois d'Allah. La gravité de ce péché. Et souvent, malheureusement, quand il y a des conflits de couple, plus personne ne connaît ni Allah ni son messager. Tous les moyens sont bons pour arriver à leur finalité. La fin justifie les moyens. Même s'il faut se déguiser, non, moi je ne suis pas un intégriste, je suis quelqu'un de modéré, mon mari c'est un intégriste, donnez-moi les enfants. Voilà, en résumé, hein, parce que c'est comme ça souvent que ça se passe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et guide nos frères et nos sœurs qui, pour suivre leur passion, ils ne sont pas loin de sortir de l'islam s'ils ne l'ont pas déjà fait. En reniant des bases essentielles de l'islam et en critiquant l'islam devant les mécréants. Juste pour gagner de l'argent ou parce qu'ils veulent les garder des enfants. Elle ou ils.
J'ai donné l'exemple de elle, ça peut être il. Sous, et peu importe.
Allahu musta'an wa alayhi tuklan.
Donc vous voyez la gravité du faux témoignage? Qu'est-ce qu'il peut faire? Combien de gens, ils ont subi des tortures, ils se sont fait tuer, ils ont été en prison pour des faux témoignages, à cause de faux témoignages. Leur honorabilité a été touchée, leur vie, leur famille, elle s'est rompue, elle s'est déchirée, elle s'est détruite pour un faux témoignage. Donc vous voyez la gravité du faux témoignage, les méfaits du faux témoignage.
Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit, les musulmans sont considérés comme justes, c'est-à-dire probes, les uns envers les autres, sauf celui qui a été châtié pour une peine légale ou celui dont le faux témoignage a été prouvé.
Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit, le faux témoin ne conserve ni sa religion, ni sa dignité. C'est-à-dire, il dit pas par là qu'il est sorti de l'islam, mais il a perdu sa religiosité, son honorabilité.
Parfois, certains jurisconsultes voient que le faux témoin pervers, il faut le dénoncer publiquement à titre dissuasif pour les autres. Et pour préserver l'intérêt des musulmans, pour montrer à tout le monde, attention, celui-là c'est un menteur, il fait des faux témoignages. Comme ça, tout le monde sait qu'on ne doit pas accepter son témoignage. Et le juge peut décider de lui donner une peine disciplinaire, ta'zir. Il n'y a pas un had pour shahadat al-zur, mais le juge peut décider de l'emprisonner, ou de lui donner une amende, ou de lui donner des coups de fouet, ou autre. Car il n'y a pas une peine légale qui est désignée dans le Coran et la Sunna concernant ce péché, qui est le faux témoignage. Puis, l'imam al-Dhahabi a rapporté la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ. Et ceux qui ne portent pas de faux témoignages. Allah tabaraka wa ta'ala a cité ici cette qualité en description des serviteurs du Tout Miséricordieux. Il les a loués pour leurs différentes qualités et parmi elles, le fait d'avoir abandonné le faux témoignage. Ceci indique que cet acte est incompatible avec la rectitude religieuse et la perfection de la foi. Puis l'imam Zahabi a rapporté un récit, un athar, en fait c'est pas, il n'est pas sahih en tant que parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cette parole a été authentifiée comme une parole d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui l'a dit. Le faux témoignage a été mis au même niveau que l'associatrie à Allah. Puis il a récité la parole d'Allah. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Écartez-vous donc de la souillure des idoles et écartez-vous des paroles mensongères. Donc vous voyez que ici, les paroles mensongères ont été associées au polythéisme, à l'idolâtrie, dans la gravité et dans l'interdiction. Ceci ne veut pas dire qu'il y a une assimilation dans le degré de gravité et du péché. C'est-à-dire, on ne dit pas que celui qui fait un faux témoignage, il est mécréant, comme l'idolâtre. Mais c'est pour montrer tellement ce faux témoignage est mauvais qu'il a été associé à ce grave péché qui est l'idolâtrie.
Puis l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, a cité un hadith rapporté par al-Tabarani et al-Bayhaqi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, les deux pieds du faux témoin ne bougeront pas le jour de la résurrection jusqu'à ce que le feu lui soit rendu obligatoire. Ce hadith, il est faible, mais son sens, il est corroboré par les textes généraux sur les grands péchés. Puis l'imam al-Dhahabi a dit, je dis, le faux témoin a certes commis de graves forfaits. Premièrement, le mensonge et la calomnie. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Allah ne guide pas celui qui est outrancier et grand menteur. Puis il a cité le hadith. Le croyant peut avoir tous les traits de caractère sauf la trahison et le mensonge. Ce hadith n'est pas authentifié comme une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle a été authentifiée comme une parole d'Abu Umama radiallahu anhu. Puis l'imam al-Dhahabi a dit le deuxième méfait. Deuxièmement, il a commis une injustice envers celui contre qui il a témoigné, jusqu'à ce que par son témoignage, ses biens, son honneur ou sa vie lui soient pris. Troisièmement, il a commis une injustice envers celui en faveur de qui il a témoigné. En lui apportant un bien illicite, il l'a donc pris à cause de son témoignage et le feu lui est devenu obligatoire. Et il a cité ici le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par le Bukhari et Muslim. Si je tranche en faveur de quelqu'un en lui attribuant un bien appartenant à son frère sans droit, qu'il ne le prenne pas, car je lui ai dans ce cas-là découpé un morceau du feu. Puis l'imam al-Dhahabi a dit quatrièmement, donc parmi les méfaits du faux témoignage, il a rendu licite ce qu'Allah a rendu illicite et protégé, à savoir les biens, le sang et l'honneur. Bien sûr, ici, quand il dit il a rendu licite, ce n'est pas l'istihlal, c'est-à-dire il n'a pas eu la croyance que c'est licite. L'istihlal, c'est pas le fait de rendre licite, c'est-à-dire il lui a volé son argent, il lui a volé ses biens, il a fait un faux témoignage à cause de son faux témoignage. Son argent, ses biens et son honneur sont devenus licites pour certains. Donc, il y a une différence entre faire un acte et croire en sa licéité. Faire un acte illicite, ça ne rend pas mécréant. Ce n'est pas de l'istihlal. On ne dit pas, il a rendu illicite ce qu'Allah a rendu licite. Vous avez compris ? Par contre, croire en la licéité d'un acte illicite, ou dire qu'un acte illicite reconnu, unanimement reconnu illicite, que c'est licite, là ça devient de l'istihlal. Tu as rendu halal ce qu'Allah a rendu haram. Et ceci est de la mécréance, car tu as démenti Allah. Quand tu dis par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacré et illicite le bien du musulman. Et un il vient, il dit non, aucun bien des musulmans n'est sacré, non, c'est halal. Par exemple. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a fait ça? C'est comme s'il disait Allah est un menteur et moi je dis la vérité. Donc comment quelqu'un il peut être croyant en disant ça? Quelqu'un qui dément Allah, il dit Allah est un menteur. Il peut être croyant après ça? Donc c'est ça, ça revient à ça, rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite. Ou rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite. Bien sûr, tout en le sachant. Si quelqu'un, c'est par ignorance, il croit qu'Allah a dit cela, il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, il pense que l'islam ordonne cela, mais par ignorance il le dit, il ne devient pas mécréant. On lui explique que l'islam ne prodigue pas cela, et ce que tu es dit est contraire à l'islam. Et on lui expose les preuves. Non. Puis l'imam al-Dhahabi a cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par l'imam Muslim. Tout ce qui appartient aux musulmans est sacré pour un autre musulman, ses biens, son sang et son honneur. Puis il a terminé par le hadith des 7 péchés pernicieux, ou l'autre hadith des plus grands péchés. Voulez-vous que je vous informe des plus grands, des grands péchés? Akbarul kaba'ir. C'est pas seulement les grands péchés. Akbarul kaba'ir. Voulez-vous que je vous informe des plus grands parmi les grands péchés? Il a dit l'associatrie à Allah, la malfaisance envers les parents, puis il dit, et le parler mensonger et le faux témoignage. Il ne cessa de le répéter jusqu'à ce que nous dîmes, si seulement il s'était tu. rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc vous voyez, dans les textes que l'on a cités, la gravité de ce grand péché qui fait partie des plus grands parmi les grands péchés. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.